en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui l'un des plus grands écrivains vivants, l'écrivain albanais Ismail Kadare, à l'œuvre étonnamment diverse et traduite dans plus de 40 pays. Ismail Kadare qui, des années 60, au tout début des années 90, a représenté aux yeux du monde la conscience de cette partie du peuple albanais qui ne supportait pas l'oppression communiste dans un pays qui avait déjà subi l'oppression ottomane et l'oppression fasciste. Ismail Kadare, qui a été installé comme associé étranger à l'Académie des sciences morales et politiques le 28 octobre 1996 et qui vient de publier chez Fayard un roman intitulé « Le dîner de trop » où il est question d'une extravagante et terrifiante tentative de machination communiste à partir d'un soi-disant complot juif planétaire visant à décapiter les pays socialistes. Ce roman sur la folie galopante des régimes totalitaires fait froid dans le dos, d'autant que l'on retrouve, comme d'habitude chez Ismail Kadare, cet art exceptionnel de l'efficacité du récit, né de la conjonction d'une extrême rigueur dans la construction de l'intrigue et des phrases, et d'une richesse exubérante dans le maniement des mots et de l'imaginaire traditionnel des Balkans. Ismail Kadare, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, cette question récurrente posée à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Alors tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été Ismail Kadare jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel?
Pour un écrivain qui vit... travaille dans un régime extrêmement totalitaire, comme a été mon cas, parce que l'Albanie fait partie parmi les pays les plus durs stalinistes du monde. Dans le XXe siècle, il y a peu d'exemples pareils. Et voilà, le moment clé pour moi, c'était quand j'ai compris que dans ce pays fou, ce que je fais, comme la littérature, c'est bien, c'est normal. C'est-à-dire que je ne suis pas transformé, ou dégénéré ou perverti par ce régime. Ce moment clé était arrivé en 1970. J'étais 34 ans. Alors, je peux dire que j'étais au milieu de ma vie. Mon premier livre, mon premier roman, était publié ici en France.
1963 ?
Non. 1970, c'était publié en France.
Général de l'armée morte ?
Oui, j'ai publié en Albanie, ça, en 63.
En 63, c'est ça.
Mais
en France, en
70, voilà. C'était publié en France. Et après la France, tout de suite, dans presque toute l'Europe. Et un jour, j'ai compris que ce que j'ai fait, c'était aussi bien pour nous là-bas, mais c'était aussi bien pour le monde libre. Alors, c'était une chose un peu extraordinaire pour moi que... cette création de l'esclavage, c'est-à-dire de la prison, ça allait bien pour être goûté, pour être apprécié, pour être estimé dans le monde libre. C'est-à-dire, j'ai vu avec mes yeux, j'ai vu mon avenir, c'est-à-dire un jour quand ce communisme va tomber, voilà, c'est l'épreuve que mes livres, c'est-à-dire, ils vont vivre encore.
Mais dans votre pays, à partir de ce moment-là, vous êtes devenu un contre-pouvoir virtuel. Enfin, vous étiez...
C'était un double tranchant, ça. D'un côté, que j'étais connu partout par le monde, m'a aidé pour me protéger. Relativement, ça me protégeait, ça c'est sûr. Mais de l'autre côté, aux yeux de la dictature albanaise, j'étais quelqu'un... très bizarre, pour utiliser un mot normal. J'étais quelqu'un très soupçonné, quelqu'un très douteux. Pourquoi cet écrivain, qu'il doit être le nôtre, du communisme, il était aussi aimé là-bas, dans les pays absolument, c'était hostile pour l'Albanie. Avec la plupart d'eux, l'Albanie n'avait pas même les relations diplomatiques. Par exemple, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne fédérale, l'Espagne... et les autres aussi. C'était très rare, même dans l'Occident, que l'Albanie, trois ou quatre pays seulement, avait des relations. Avec les autres, elle était rompue pour toujours. C'était une rupture tragique, c'est-à-dire pas une rupture en dentelle, mais c'était vrai, tragique, pour toujours. pour la vie et pour la mort.
Alors ces rapports-là, vous les avez décrits. D'ailleurs, il y a une phrase dans l'un de vos livres. « Nul n'ignore que sous un régime tyrannique, un grand écrivain isolé est un peu comme un arbre marqué pour être abattu. »
Oui, parce que pour être écrivain dans les pays comme ça, pour être connu, célèbre, c'est-à-dire, il faut payer une dette. Parce que la célébrité, c'est culpabilité. Dans les pays où c'est le culte de la masse populaire, le culte de non-individualité, c'est-à-dire, vous êtes très marqué. Alors, vous êtes quelqu'un qui est deux fois plus coupable. Mais encore plus coupable, vous devenez quand vous êtes connu dans le monde.
Oui, ce qui est
alors, vous
cas.
Êtes trois fois, cinq fois coupable. Mais ça vous donne, en même temps...
Une liberté, quand même.
Une liberté, ça vous donne un plaisir et, en même temps, une sorte de souci, quand même.
Alors, vous parliez de votre pays et dans vos livres, il y a des phrases superbes pour le décrire. Je vous en cite deux. Vous parlez de ces montagnes rocailleuses et des nuages de colère, montagnes hautes et froides, toile de fond d'un décor de tragédie, ces nuages qui remplissent le ciel d'un hurlement de tonnerre, descendant toujours plus, comme si cherchaient les morts. On a l'impression que dans votre pays, l'Albanie, la géographie a presque autant d'importance que l'histoire.
Oh, on ne peut pas dire ça. Cela, mais plutôt que la
géographie... Elle est au diapason de l'histoire, en tous les cas. Tragique, c'est...
C'est tragique, mais la géographie pour l'Albanie, c'est la plus grande alliée objective. C'est-à-dire, si ce pays avait quand même quelques chances, parmi les premières chances, c'est la géographie. C'est-à-dire que le fait que l'Albanie, c'est entre la Grèce et l'Italie, c'est-à-dire que c'était bien situé dans l'Europe, c'était un grand privilège pour le peuple albanais. Sinon, le communisme albanais, s'il pouvait bouger le pays, il va transférer très loin entre la Mongolie et la Chine, par exemple, pour être aussi loin du monde maudit capitaliste de l'Occident. Vous savez, mais heureusement, il ne pouvait pas faire ça. Alors, l'Albanie, malgré toutes ces tragédies, elle avait cet allié.
Sa géographie.
Sa géographie.
Car il faut dire que de tout temps, ça a été une terre d'invasion. Hein. On cite pratiquement tout le temps, quoi. Et une terre de...
Mais tous les pays autour, c'était pareil, comme ça. Pas seulement les Balkans, mais autour de l'Empire, l'ex-Empire romain. Tout le monde était envahi plusieurs fois. Hein. Ou bien par l'Empire ottoman, ou bien par l'Empire byzantin, ou bien par l'Empire romain, ou bien par Reich allemand, ou bien par les Italiens fascistes. C'est-à-dire, c'était inévitable, ça.
Avec un court moment d'indépendance, quand même, au XVe siècle.
Ah, oui. Bien sûr, tous les pays balkaniques, ils avaient une période pré-ottomane, si on peut qualifier comme ça. C'est-à-dire, ils avaient une vie moyenâgeuse, à peu près, un peu rassemblée à la vie du Moyen-Âge en Europe. Ils avaient la relation avec les pays occidentaux, surtout l'Albanie, parce que c'était au code de la... littoriale, elle avait la relation avec Venise, de Rome, de Naples, même c'était une dynastie française, les Anjou qui étaient au Naples, les princes albanais, les féodaux, ils avaient l'alliance de mariage. Bref, mais l'occupation ottomane, c'était vraiment un apocalypse pour tout le monde là-bas, pas seulement l'Albanie, c'était la Grèce qui était tombée la première. C'était l'Albanie, la Serbie, la Macédoine, le Monténégro, la Bulgarie, la Roumanie, c'est-à-dire, tout c'était fini pour 4-5 siècles. On ne peut pas dire que c'était un malheur qui tombait seulement sur l'Albanie, parce que parfois les Albanais, ils aiment bien se présenter comme les victimes.
Les victimes.
Très victimes. Ils aiment bien être victimisés. Mais ce n'est pas vrai, ça. C'était à peu près un destin commun.
Alors quand on regarde évidemment cette région des Balkans, donc avec ce va-et-vient des peuples, ces invasions et ces oppressions, il y a quand même une chose étonnante, c'est que c'est une région où il y a 4 alphabets différents, chacun dans son écriture. Là, on voit le morcellement.
Oui, ça c'est vrai. Parce que les Balkans, c'est une péninsule parmi les péninsules. Il y a 4 péninsules de l'Europe, 3 au sud, 1 au nord, les Scandinaves. Alors, c'était la péninsule la plus variée, la plus riche. C'est le monde univers grec, qui est complètement différent de l'univers slave. Et les deux sont complètement différents de l'univers albanais. Alors, voilà pourquoi il y a 4 alphabets. Alphabet grec, c'est unique dans le monde. Alphabet slave, c'est cyrillique. Il y a plusieurs pays slaves dans les Balkans. Les Serbes, les Macédoines, les Monténégrins. L'alphabet latin, c'est l'alphabet albanais. Et dernier temps, les Croates aussi, les Slovènes. voyez-vous. C'était normal, ça. C'était pas de façon artificielle ou capricieuse que sont créés cet alphabet divers. La langue grecque, elle avait son alphabet historique qui pouvait changer. Les pays slaves, pour la même raison. Alors, l'Albanie, il doit choisir entre les deux, mais la langue albanaise, c'est complètement différente de tous les autres dans les Balkans. Elle est seule, elle est orpheline comme langue, comme le grec. Les deux langues européennes sont les deux orphelines, le grec et l'albanais. Tandis que la famille slave, elle est grande. La famille latine, comme c'est le roman, qui fait partie des romans, elle est grande, italique. Tandis que ces deux langues sont vraiment deux langues solitaires des Balkans.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'une des particularités du communisme albanais, d'être fâché avec à peu près tout le monde. Mais il y en a au moins deux autres. C'est un endroit où on a mis le maoïsme au pouvoir. C'était en 1967. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi le maoïsme tout à coup
Pourquoi le maoïsme? C'est très simple. L'Albanie, elle a changé plusieurs fois les alliés, d'une façon grotesque. On dit dramatique, mais j'ai ajouté dramatique et grotesque.
Mais votre livre le montre bien.
Ça. Les deux. C'est-à-dire, pour les raisons très mesquines, il n'y a rien d'héroïque dans cela. Le dictateur albanais, Hoxha, pour garder le pouvoir, au commencement, il était allié avec les Yougoslaves. Après que la Yougoslavie et la Russie stalinienne ils ont fait la rupture, il a choisi le plus fort, la Russie, contre les Yougoslaves. Alors, il était fâché avec les Russes pour les causes personnelles, absolument, c'est-à-dire parce que quand il y a eu cette voix libérale de Khrushchev, qu'il a été contre la voix terrible de Staline, il voulait un peu démocratiser le monde communiste. Hoxha, il a senti le danger. Khrushchev a commencé à changer tous les chefs des ex-pays satellites. Alors, il a préféré aller encore plus loin, et encore plus dur, qu'étaient les Chinois. Alors, il a rompu avec les Russes et il était approché avec les Chinois. Et il était rompu avec les Chinois dès qu'il a compris que les Chinois aussi, il était un peu adouci, il était un peu libéralisé. C'était la visite du président américain Nixon en Chine. Et Hoxha, il a douté que maintenant la Chine aussi, ça se devienne méchante un peu. C'est-à-dire. Alors, voyez-vous, il a choisi toujours la partie la plus dure pour être allié. Et avant, après la Chine, il est resté seul.
Seul avec lui-même, oui, c'est ça.
La seule chose qui se passait pendant toutes ces ruptures tragicomiques, c'était que de temps en temps, en Albanie, c'était un rêve, comme une sorte d'hallucination, que le peuple a une rumeur que maintenant on va vers l'Occident. Chaque fois, rêvé d'aller vers l'Occident, et chaque fois, il a eu la désillusion. Mais vous savez, la désillusion pour un pays totalitaire, c'est très positif.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est comme une douche froide.
Une douche froide, oui.
Pour toute la population, vous savez.
Mais alors, vous, ce que vous évoquez là nous donne peut-être l'explication à la question que je vais vous poser. On dit que l'Albanie est le pays des aigles. Alors, comment se fait-il que ce soit le pays où le communisme ait duré le plus longtemps? Puisque là, le communisme n'est pas tombé en 89, il est tombé en 90. Pourquoi l'Albanie est-elle restée un bastion communiste dur après les autres?
Parce que la dictature albanaise, elle avait une sorte d'homogénéité. Elle était stalinienne toujours. Mais dans un pays totalitaire, quand il n'y a pas de facteur très important qui est la mort du chef, vous n'attendez rien. Jamais.
Ça ne bouge pas.
Ça ne bouge pas. Le fait que Staline était mort en 1953, il a changé, c'était une chance majeure pour tout l'univers communiste.
Sauf
pour nous, parce que notre Staline, il était toujours vivant, Hoxha. Alors, après lui, c'était toujours Hoxha. Et après, le nouveau Hoxha, c'était toujours Hoxha. C'est-à-dire, pour nous, Staline était vivant. Quand le dictateur est vivant, aucun espoir. C'est très simple. Il a sophistiqué sa dictature. Il a compliqué, il a joué tout possible pour garder ça. Il ne pensait qu'à cela. Alors, si vous pensez jour et nuit, c'est un maniaque, si on peut utiliser un mot, est-ce que ça existe, dictaturomanie ou je ne sais pas, totalomanie, hein? C'est-à-dire, c'est très simple, je crois. Et dès qu'il était mort, tout de suite...
Tout est tombé, quoi.
Pas tombé tout de suite, mais ça commençait à tomber tout de suite.
Alors, votre lien avec la France est lointain, entre autres à travers une curiosité éditoriale. Vous avez, après 1965, si je suis bien informé, vous avez dirigé une revue qui s'intitulait « Les lettres albanaises » et qui paraissait en même temps, simultanément, en albanais et en français. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette initiative étonnante, hein, une revue qui était à la fois en français et en albanais?
Premièrement, c'était seulement en français.
Elle n'était pas en même temps en albanais?
Non, parce que ce n'était pas besoin. Alors, pourquoi ça? C'était de temps en temps, notre Hoxha, qui a fait ses études en France, il aimait bien donner l'impression qu'il n'a pas oublié la France quand il avait l'intérêt pour cela. C'est-à-dire, quand il voulait bien susciter les espoirs dans la population, alors il a commencé d'utiliser les phrases en français, évoquer les écrivains français, évoquer le Paris, évoquer la France, etc. Et de temps en temps, il donnait les signes trompeurs comme ça. C'est-à-dire, et voilà, il a laissé ses revues pour donner l'impression qu'il était un libéral.
Ah oui,
parce qu'il voulait bien avoir, c'est-à-dire être qualifié comme grand intellectuel. Est-ce que ça a été positif ou négatif? D'un côté, ça a été négatif si tout le monde pouvait être trompé par cette allure extérieure. Mais de l'autre côté, de temps en temps, ça a été positif parce qu'il était obligé de jouer ce rôle.
Oui, de lâcher du lest.
Oui, par exemple, il était très attentif de ne pas mettre en prison les écrivains qui étaient très connus de la ex-bourgeoisie. Parce qu'en Albanie, comme partout, il y a plusieurs messieurs anciens qui étaient, avant, c'était l'écrivain pendant le royaume, etc. Il y a eu même les écrivains décadents, soi-disant, entre guillemets, les écrivains parnassiennes ou très esthétisantes, etc. Il n'a pas touché, eux. Il a laissé vivre, pas très en vue, mais vivre, pour donner cette impression que ce grand intellectuel, il comprenait bien les grands intellectuels. Et c'est comme ça, il a joué avec ça, beaucoup. Il a joué avec ça, beaucoup, parce que surtout, que les autres dirigeants communistes de l'autre pays, en général, n'ont pas eu les dirigeants ex-bourgeois. Et lui, c'était presque un ex-bourgeois. Il avait un passé presque d'un dandy européen, c'est-à-dire superficiel comme ça. Il mettait les brillantines dans les cheveux, ce qui sont peut-être les détails ridicules, mais pour la population, il jouait un rôle. Il ressemblait plutôt aux hiérarques italiennes qu'aux dirigeants, au commencement surtout, aux dirigeants communistes de l'Est, qui étaient plutôt, il avait un l'air plus populaire, plus costaud comme ça.
D'ailleurs, on le voit dans les bustes qui sont restés de lui, il avait une certaine... Il portait beau, comme on dit en France.
Et surtout dans les photos, si vous voyez, il avait absolument de la mode italienne commencement.
Alors, je disais donc, en vous présentant, que vous étiez depuis 1996 membre associé étranger de l'Académie des sciences morales et politiques, mais dès 1989, vous aviez été élu correspondant. Alors, cette élection, en fait, avait un sens politique. Est-ce que vous n'avez pas été élu en partie pour vous protéger d'une certaine façon?
C'est la première fois, oui.
La première fois en 89,
oui,
c'est ça, hein? Donc la France a cherché à vous protéger.
Je ne sais pas exactement, mais c'était logique, ça, oui. Parce que ici, j'avais plusieurs amis en France, parce que vous savez, j'avais l'occasion, quand j'étais publié ici, de faire quelques voyages en France. Il était obligé, le pouvoir, de me laisser venir ici.
Oui, parce que vous êtes venu pour la première fois en 71, je crois, à Paris.
71, oui.
C'est ça. Hein.
Parce qu'il y a une rumeur populaire que j'ai toujours les invitations, mais le pouvoir ne me laisse pas partir. En effet, c'était exagéré, ça. C'est-à-dire, la rumeur populaire albanaise, c'était plus fort que la réalité. Je n'avais pas tellement tant d'invitations. Mais les gens imaginaient que chaque semaine, j'ai une invitation de quelque part. Alors, le pouvoir auto-suggestionnait de cela. Elle croyait bien, parce que le pouvoir bureaucratique, elle est très vigilante, mais en même temps, elle est très, très aveugle, très naïve aussi. Il est les deux. Parce que, par exemple, je suis venu une fois, je vous dis une curiosité, première fois que je suis venu à Paris, je n'avais pas aucune invitation. C'était une rumeur seulement. Et l'État lui-même, il a...
Vous en avez profité, quoi.
Il croyait l'État albanais dans cette rumeur populaire. Chaque département, il croyait que l'autre département savait.
Ah, savait, oui.
C'est déjà une invitation, mais il était caché là-bas.
Et vous êtes passé...
Et l'autre savait. Moi-même, j'étais sûr que j'avais une invitation.
Et vous n'en aviez pas?
Absolument, ça n'existait pas. Quand je suis venu à Paris, j'ai constaté que je n'ai pas l'invitation. Et monsieur l'ambassadeur qui était ici, le chef d'Albanie, il croyait aussi que j'ai une invitation. Il était étonné. Mais comment c'est possible ça? Et il avait peur de déclarer à Tirana qu'il n'y a pas d'invitation.
Donc ça a continué.
Parce qu'il était responsable aussi. Pourquoi vous n'êtes pas au courant qu'Ismaël Kadare n'a pas aucune invitation? Et c'est comme ça que je suis venu ici.
Bon, ben, c'est une bonne chose pour nous.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Ismaël Kadare, qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire sur votre domaine d'activité aujourd'hui, ou, si vous préférez, sur ce que vous faites actuellement ou sur ce que vous venez de faire? Par exemple, le livre Le Dîner de Trop, ce roman.
Maintenant, vous savez, ce roman, j'ai écrit simplement. Qu'est-ce que je pouvais dire encore? Oui. Je n'aime pas les romans qui sont basés sur les faits réels, parce que c'est une sorte de...
C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a rien de réel?
Non, il y a... La moitié, c'est...
Alors, on résume. Hein.
Alors, la moitié, c'est réel.
Donc, c'est le début ou c'est la fin qui est réelle?
C'est le début.
Bon, alors, le début, donc, les Allemands arrivent en Albanie, oui. S'installent dans votre ville natale, d'ailleurs.
Oui.
Comment
oui.
prononce-t-on? Girokaster?
Girokaster.
Oui. À Girokaster. Et là, il y a donc les maquisards qui tirent oui. Sur les Allemands. Mais surtout, les Allemands sont dirigés par un homme qui a fait ses études avec un notable de l'endroit, qui est un médecin. Ils vont dîner ensemble, mais simplement le médecin, pour ne pas être pris pour un collaborateur, demande aux nazis de libérer les otages, ce qu'ils font. Ça, c'est vrai?
Ça, c'est absolument vrai. J'étais à 7 ans à cette époque, c'était 43. J'étais 7 ans juste. Ce fameux médecin, c'était dans notre quartier, quelques centaines de pas, loin de ma maison. Tandis que toute la ville attendait un châtiment par les Allemands, parce qu'on a tiré contre lui. Hein. Et tout de suite, on a entendu la musique. Moi, je me souviens très bien ça.
C'était... Vous vous souvenez de ça?
Ah oui. Et la maison, c'était tout près. Et la musique, j'attendais, parce que c'est une ville médiévale qui est très dense.
On appelle la ville de pierre. Hein.
Voilà,
très belle, très, très belle.
Très belle. Et voilà, et tout le monde chuchotait par les fenêtres, chez le docteur. Il y a un dîner avec les Allemands. Il ne savait pas de quoi réjouir de ça, parce qu'il va faire quelque chose pour la ville, ou désespérer, il ne savait pas. Et c'était un mystère, c'était ce fameux dîner, qui était le dîner de trop. En albanais, c'est le dîner fautif, c'est-à-dire plutôt. C'est-à-dire. Alors, c'était pendant des années, c'était dans le...
Dans la tête des gens.
Dans la tête des gens et aussi de l'État. De temps en temps, on fait le juge d'instruction, on a revenu pour...
Chercher à comprendre, quoi.
Chercher quelque chose qui manquait, quelque chose qui n'était pas clair, quelque chose qui échappait à tout le monde.
Alors donc, la deuxième partie, le pouvoir s'empare de ça et voit derrière tout ça du fait que dans les otages libérés, il y avait un pharmacien juif, donc libéré par un colonel nazi, et ils partent de cette idée, de ce constat-là, pour imaginer qu'il y a eu un énorme complot international, un complot juif pour renverser les régimes staliniens. Mais ça veut dire que la paranoïa était à ce point fort que vraiment on était dans la folie du complot permanente?
Oui, c'est absolument. L'Albanie,
c'est ça?
C'était... Ah oui. Dans ce cas-là, ce n'était pas question de juifs. Parce qu'en Albanie, c'était normal. L'Albanie, c'est parmi les rares pays de l'Europe qui les juifs n'ont pas été persécutés. Parce qu'ils étaient protégés. Pas seulement par la population albanaise, parce qu'il était très bien intégré dans la vie albanaise, mais, chose étrange, par le gouvernement Quisling aussi.
Et pour quelle raison?
Parce que, pour une raison, parce que c'est maintenant on a découvert toujours les documentations, c'était au commencement un grand mystère, mais le mystère est devenu plus clair chaque jour. Le résultat, c'était qu'aucun juif en Albanie n'était pas été livré aux Allemands. Alors, Israël a plusieurs, c'était parmi les premiers pays qui a fait reconnaissance officielle, c'était l'Albanie. Alors, le gouvernement Quisling albanaise, que c'était un gouvernement, l'Albanie officiellement à cette époque, c'était allié des nazis, l'État albanais, parce que c'était pas un pays officiellement occupé, mais un pays sous la tutelle allemande. Alors, les Allemands, ils ont demandé de ce pays. Il avait une sorte de, c'est-à-dire, soi-disant préférence parmi les pays très hostiles qui étaient la Grèce et la Serbie. Pour l'Albanie, il avait ou bien un préjugé ancien ou bien dans leur plan, l'Albanie occupait une place un peu, entre guillemets, privilégiée dans les Balkans. Parce que peut-être il était contre les Slaves, bien sûr, et l'Albanie non pas les Slaves. Il avait une attitude un peu hostile envers la Grèce, parce que la Grèce était très liée avec les Anglais. Et pour eux, peut-être, pour eux, ils ont vu l'Albanie comme un sort de pays où ils pouvaient donner quelques faveurs, c'est-à-dire. Voilà pourquoi il était très prudent.
Sur ce sujet-là.
Dans mon livre, je crois, en ce sens-là, c'était très prudent.
Mais alors, il y a... Pardon, oui.
Surtout avec les femmes, c'est une grande curiosité. Hein. Ils ont entendu que les Albanais sont très prudents. Hein. Alors, les soldats allemands, ils avaient peur de regarder même les femmes.
Touchez pas, il est touché pas. Alors, il y a deux choses très impressionnantes dans votre livre. La première concerne la folie des tortionnaires. On a vraiment la chair de poule. Hein. Quand on lit les passages sur les séances de torture subies en particulier par le docteur Gurameto en 52-53 dans la grotte de Chanicha, il y avait des choses de ce genre-là qui se passaient là-bas. C'est-à-dire qu'on utilisait, par exemple, pour torturer ce chirurgien, on utilisait ses propres instruments de chirurgie à lui. C'est votre imaginaire, ça, ou c'est,
oui,
c'est la réalité?
Ça, mon imaginaire. Je vous assure que la réalité dépassait cela. Oui. Il y a eu les tortures encore plus terribles.
Autre image, il y a des jeunes donc, qui sont dans ces équipes de tortionnaires. Il y a là un aveugle qui s'appelle Veip. Et les garçons lui collent dans les orbites des yeux de verre phosphorescent. Ça s'est fait, ça?
C'est ça arrivé, oui. Ce sont les blagues. Les blagues terribles qui tous les tortionnaires ont se connu, ça, oui.
Oui, donc ça se...
Ils voulaient jouer de temps en temps.
Ouais. Donc on s'aperçoit que
c'est... Oh, oui.
Quand la folie est engagée, ça va...
Oh, oui.
Alors il y a une chose également extraordinaire sur ce plan-là, c'est qu'au moment où on apprend que Staline est mourant, il cherche vraiment à obtenir des aveux donc, de ce médecin, de l'existence du complot, parce qu'il pense que ça va ressusciter Staline.
Qu'ils ont espoir que Staline était mort par le désespoir que le complot des Juifs n'ait pas été découvert encore, comme il voulait. C'était très naïf, ça, parce que Staline, il inventait les complots. Il pouvait déclarer un jour très bien qu'il s'est découvert, mais il pensait naïvement que vraiment il souffre de ça, que le complot est là, et le pauvre Staline, par le désespoir total, il va être mort, il va mourir. Et sa grande joie sera tellement grande que s'il va attendre qu'enfin les ficelles du complot ils sont découvertes quelque part dans ce petit Albanie lointaine, il va ressusciter. Oui.
Alors la chose personnellement qui m'a le plus étonné, le plus frappé d'ailleurs, et ça bouleverse, c'est ce que vous dites du stalinisme tel qu'il était vécu là-bas. Par exemple, il y a ce chant que les militants, donc, paraît-il, chantaient avec euphorie, c'est vous qui le dites, je récite, hein. Nous qui avons Staline pour père, versant le sang par mont et par veau, jusqu'à ce que flotte sur terre le drapeau à faucille et marteau.
Oui, c'est une chanson vraiment.
Un chant qui existe.
Ça existe, une chanson soviétique, oui.
C'est-à-dire que.
Oui, ça existe, vous pouvez trouver ça, oui.
Nous qui avons Staline pour père, versant le sang par mont et par veau, jusqu'à ce que flotte sur terre le drapeau à faucille et marteau. Donc le sang était revendiqué.
Ah oui, absolument. Oui. Vous, par curiosité, vous pouvez trouver ça dans les textes des chansons soviétiques de l'époque. Oui.
Et alors, la chose la plus étonnante, hein, si l'on en croit votre roman, c'est au moment de la mort de Staline, donc début 53, cette espèce d'hébétude qui saisit le pays. Et est-ce exact que les dirigeants même sont restés à genoux devant la statue de Staline
C'est filmé, ça. Vous pouvez voir aussi ça.
Oui. Mais c'est vrai que les gens, pour les gens, ça a été un moment de détresse totale.
Oh non, pas du tout. Non.
Ah non,
pour les dirigeants.
Là, c'est les dirigeants et les militants.
Oui.
Parce que là, en vous lisant, on a l'impression que les militants sont pas perdus.
Les militants, les fanatiques, du régime. Non, bien sûr, parce que le Staline était lié avec le destin, mais pas pour les autres.
Non, non mais pour ceux-là, c'était à ce point.
Ah oui, c'était... Oui, absolument.
Alors, la question que j'ai envie de vous poser, après avoir lu ce livre, hein, c'est un peu terrible de poser cette question-là, vous me pardonnerez, mais... Est-ce que le fait d'avoir connu toutes les affres donc, de la censure totalitaire et d'un régime comme celui-là, au fond, est-ce que ça ne vous a pas aidé à donner le meilleur de vous-même en tant qu'écrivain?
Plusieurs fois, c'était posé cette question.
Y a d'autres exemples.
Une dictature, c'est bien pour la littérature ou non? C'est une pensée, ça, pas très contemporaine. On peut trouver chez Homère, c'est une phrase comme ça. Les dieux nous avons donné les malheurs pour que nous pouvions transformer dans les chants, dans les rhapsodies.
Dans la création.
Dans la création. C'est-à-dire, même Homère, il a fait cette découverte que ce sont pas mal les malheurs parfois. Je ne crois pas
Vous-même, est-ce que vous...
Quand j'étais dans le pays, je pensais que... Et si ce régime terrible n'existait pas, est-ce que mon écriture c'était mieux ou au contraire pire?
Réponse.
Réponse, je ne savais pas dès que le régime existait. Après la chute du régime...
Là, vous avez eu la réponse.
J'ai eu la réponse. Ça aura été pareil. Mon écriture, ce n'est pas changé, je crois. Peut-être j'écrivais... Il y a les changements naturels, par la vie, par l'âge elle-même. Mais je ne suis pas devenu plus courageux après la chute du communisme. Ni moi, ni plus courageux. Tandis qu'on peut imaginer que maintenant, il peut dénoncer le communisme beaucoup plus... qu'avant, mon roman le plus antitotalitaire, qui est « Le palais des rêves », j'ai publié en Albanie en 1981. C'était la minuit de la dictature, c'est-à-dire les années les plus terribles qu'on peut imaginer, c'était là. C'est-à-dire. Voilà pourquoi je me permets de dire maintenant qu'à cette époque-là, peut-être j'étais plus courageux qu'après. C'est un peu absurde, peut-être. Pourquoi ne pas être courageux maintenant? Pas seulement que je ne suis pas courageux, c'est-à-dire, mais le résultat, c'est là, c'est-à-dire. Le livre le plus agressif, c'était à cette époque-là.
Oui. Mais il y a aussi...
Peut-être maintenant que c'est tombé l'attention, tombait aussi l'agressivité d'écrivain.
Donc, au fond, vous vous souvenez de ce que disait Victor Hugo, hein, qui était parti en exil à partir de 51. Ma proscription est bonne et j'en remercie le destin.
Bon. À peu près, c'est une vérité qu'on ne peut pas nier, mais on ne peut pas dire que mettez les écrivains dans les prisons parce qu'ils vont écrire mieux.
Oui, mais ça, en fait, c'est vrai en ce qui concerne les thèmes abordés. Mais vous, ce qui fait, enfin, c'est un jugement très personnel, hein, ce qui fait quand même le fait que vous soyez parmi les plus grands, c'est votre style. Votre style, votre manière d'écrire n'a pas changé depuis que Hoxha est parti.
Voilà, c'est ça. Si
votre manière de construire des phrases, votre manière de jouer avec l'imaginaire...
Voilà,
c'était avant, c'est
ça
toujours.
Ça reste le même, c'est toujours. Voilà, c'est ça. C'est chose éternelle, c'est ça.
Oui. Bah, c'est quand même le style d'abord qui fait
l'écrivain. Les positions politiques, oui.
Alors, troisième question récurrente dans notre série L'Essentiel, donc on va élargir un tout petit peu. Il y a une part de jeu, bien sûr, hein, dans cette série, donc je vous demande de l'accepter. Quel est, pour vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire d'essentiel aujourd'hui sur le monde tel qu'il est?
En général, c'est une tendance bien connue dans l'histoire de l'humanité. Dans chaque époque, il y a toujours une nostalgie pour quelque chose d'avant qui était mieux. Je me souviens quand j'ai écrit un roman sur la pyramide de Khéops, égyptienne, j'ai vu les chroniques égyptiennes 4000 ans auparavant. J'étais étonné de lire les fragments pareils. « Oh, maintenant, le monde est dégénéré. Avant, les gens étaient plus honnêtes. » C'est-à-dire la même chose qu'on parle maintenant.
Mais Socrate l'a écrit aussi. Hein?
Tout le monde écrit la même chose. Les Chinois, les anciens Chinois, la même chose. C'est-à-dire, moi, j'accepte que c'est quelque chose qui avance toujours. Mais peut-être, ce n'est pas clair pour nous qui sommes tout près de l'écran. Peut-être qu'il faut un peu un recul pour voir. C'est bien que ça se passe en général. Malheureusement, c'était accompagné de temps en temps par des choses horribles, mais... On ne peut pas éviter cela.
Quatrième question récurrente donc de notre série L'Essentiel. Pour vous, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps?
Maintenant, ça c'est vraiment une question très difficile. Mais je peux dire que si on peut utiliser le mot hypocrisie ou peut-être impossibilité pour mener une action, je ne sais pas. Par exemple, on parle beaucoup d'aujourd'hui pour condamnation des crimes. Soit-il du fascisme, du communisme, du monde en général, on oublie toujours, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, on oublie un crime parmi les plus terribles qui n'a pas été jamais condamné comme il faut ou dans les proportions qu'il méritait. C'est la violation des femmes pendant la guerre. C'était toujours à côté, c'était toujours une sorte d'une branche un peu oubliée. Et c'est pour ça peut-être que, pour la honte, tous... cette époque que nous vivions, dans les Balkans, par exemple, 10 ans auparavant, c'était la guerre et la violation des femmes. Ça arrivait dans son comble, jamais connu dans l'histoire de l'humanité. J'ai eu l'occasion de lire les témoins. On ne peut pas imaginer que nous sommes plus cruels que l'armée de Genghis Khan dans ce domaine-là. Alors, la violation des femmes transformée dans un moyen de guerre, comme on a sophistication de la technique militaire, des armes nouvelles, on a élaboré ça pour frapper le peuple qui était vaincu de façon plus douloureuse qu'on peut imaginer.
L'humilier totalement.
L'humilier dans plusieurs plans. Par exemple, violer les jeunes filles devant les frères et les parents. Violer les mères devant les fils et le mari. Utiliser ces formules terribles que femmes et filles utilisent une fois seulement, comme on dit pour les préservatifs. Violer, c'est-à-dire pour briser moralement, pas seulement un, mais toute la parenté, pour briser le moral, pour briser la confiance dans la moralité humaine. Dans la... Et maintenant, tous ces gosses, ils étaient 10 ans, supposons, ou 8 ans, maintenant ils ont 18 ans, 20 ans. Vous attendez de cette génération. Ils ont vu
et
ça.
Et surtout, eux, qu'est-ce qu'ils nous attendent de
mais
nous?
Qui était le comble de la tragédie? Que, après ces crimes de bourreaux, c'était les crimes de la population elle-même qui, par une non-compréhension totale, ils voyaient ces filles et ces femmes avec mépris. Voyez-vous? Illogique, complètement. Voilà pourquoi je dis très absurde, mais tellement tragique qu'on ne peut pas imaginer. Même ils dorment parfois, pas à la maison, mais dans une partie de maison qui est honteuse. Voyez-vous? Et personne ne parle pas de ça. Personne. C'est très rare. Je n'ai pas entendu.
C'est effectivement impressionnant. Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir?
Peut-être grâce à la communication, grâce aux médias qui nous avons d'habitude de dire toujours, de parler de pas bien pour eux. Mais grâce à cela, c'était une solidarité humaine quand même, c'était vraiment progressé. On ne peut pas dire que 40 ans auparavant, c'était la même, non. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, la plus grande calamité qui s'est passée dans le domaine culturel, c'était la condamnation des écrivains de la Chine. Il y a eu à peu près 60 000 ou peut-être 100 000 écrivains chinois qui étaient humiliés, qui étaient battus. Il était traîné par les rizières. Le monde ne parlait pas.
Personne n'a bougé.
Presque. Ça, c'était vraiment terrible. Comment tellement une grande nombre colossal des écrivains qui étaient condamnés. Cet anonymat terrible. Où? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Pourquoi tout ça a été oublié? Pourquoi toute cette tragédie colossale, immense, c'était disparu? Moi, pourquoi je connais ça? Très bien. Tout le monde connaît. Mais nous étions les alliés. Avec l'Albanie, avec la Chine, c'était allé. Et le seul pays où il y a eu plusieurs délégations du monde y allait, c'était la Chine. Pendant la révolution culturelle, j'ai fait partie d'une délégation des écrivains. Nous avons vu là-bas les horreurs. Et malgré ça que je vivais dans un pays communiste, j'ai arrivé à décrire plusieurs pages pour cela. C'est le roman Concert à la fin de... Le Concert, peut-être que vous n'avez pas lu. J'ai décrit presque la tragédie. Le roman, bien sûr, c'était interdit, ce n'était pas publié, mais j'ai décrit parce que je ne pouvais pas décrire cela. Mais les autres, pourquoi cet silence? Pourquoi les Chinois eux-mêmes, maintenant, très peu, ils parlent?
Mais vous avez l'impression qu'aujourd'hui, puisqu'on parle d'espoir, aujourd'hui, ça n'est plus tout à fait la même
chose?
Non,
c'est pas, ça, c'est un progrès vraiment visible. Je ne parle pas seulement des catastrophes d'Haïti ou des catastrophes, mais dans le domaine des droits d'homme aussi, c'est très important. Maintenant, les écrivains ne se sentent plus, ou les dissidents ne se sentent plus solitaires qu'avant.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel, alors elle est très personnel. Quel a été, Ismaïl Kadaré, le plus grand échec de votre vie?
Plus grand échec?
Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein.
Je ne sais pas si ça a été échec ou c'était une impossibilité qui vient de la littérature elle-même. J'aimerais bien que mes livres, qui étaient importants pour le pays, pouvaient jouer mieux un rôle pour la liberté du peuple albanais. Peut-être que ça a été impossible, je n'arrivais pas. Mais au moins, j'ai écrit ce livre.
La petite flamme existait au regard du monde, quand même.
Oui, la petite flamme. Mais est-ce que c'était possible que toute cette machine mette en profit? Je ne suis pas sûr. C'était possible ou non? Est-ce que j'ai perdu la chance ou je n'ai perdu rien? Au moins, j'ai écrit ça.
Il fallait le faire.
Il fallait le faire. Le destin ne voulait pas qu'elle servisse à mon pays.
Septième et dernière question donc, de notre série L'Essentiel. Ismaïl Kadaré, aujourd'hui, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
Je suis écrivain, hein, et je n'ai pas l'autre vie que la vie d'écriture. Alors, je ne suis pas gourmand pour écrire.
Vous voulez dire ?
C'est-à-dire, mon écriture, ça devient toujours moi.
Enfin, vous avez écrit pratiquement un livre tous les ans.
Non.
Je regarde ça, la liste, enfin, presque, quoi. C'est une nécessité vitale d'écrire pour vous. Vous ne pouvez pas exister sans écrire.
Ça, c'est vrai. Et maintenant, ça est vrai aussi que je fais un travail, c'est-à-dire, parfois, l'écrivain, il fait un travail négatif, c'est-à-dire qu'il travaille pour les choses qu'il ne doit pas écrire, c'est-à-dire...
C'est-à-dire
que dans l'intérieur d'un écrivain, c'est une sorte de dépôt où il y a plusieurs sujets, toujours plusieurs choses à faire, etc. Et un des travaux d'écrivain, c'est ce que j'ai appelé travail négatif, c'est choisir ce qu'il ne doit pas écrire. Savoir, trouver, c'est-à-dire. Mais ça aussi, c'est un travail. Parce que pour étouffer un sujet, pour assassiner un sujet, un roman, un poème, un drame, il faut énergie quand même. Là, j'ai dit, tout ça, c'est négatif, cette énergie.
Mais prenons négative, l'énergie.
Pour être libéré de cela. Oui. Parce que vous ne pouvez pas dire que je n'écris ça et rester comme ça. Non, il faut que vous travailliez un peu dans votre tête pour être sûr que ça, je n'ai pas le temps d'écrire, je n'ai pas besoin d'écrire, alors je suis tranquille, c'est fini ce sujet.
Donc vous passez à autre chose. Mais face à la réalité tragique du monde, qu'est-ce que la littérature apporte au fond ?
La littérature, bien sûr, elle travaille pour elle-même, parce que c'est un royaume qu'elle existe. Elle a besoin de l'énergie, de réparation. Elle coûte très cher. C'est-à-dire, cette structure colossale, elle a besoin d'exister. Voilà pourquoi une grande énergie de la littérature, c'est, ça va pour la littérature.
Mais on a l'impression, quand on vous lit, hein, que la littérature est un peu un rempart contre toutes les médiocrités, au fond.
Ah, bien sûr. La littérature, c'est une vie parallèle. C'est une vie qui, en même temps, elle aide la vie et aussi elle est attaquée par la vie. Elle se protège par la vie. C'est-à-dire, je suis contre cela, cet slogan éternel que la littérature profite de la vie. Elle profite et elle ne profite pas. Elle profite, elle doit savoir comment profiter et comment se protéger de la vie, parce que la vie, c'est l'ami numéro un de la littérature, mais aussi l'ennemi numéro un, parce qu'elle fait la pression pour détruit la littérature. C'est objectif, ça. On ne peut pas éviter ça. La vie, elle veut que les écrivains fassent l'autre chose, parfois. Et les écrivains, ils sont obligés de ne pas faire ça.
Alors, vous qui cherchez justement à ne pas tricher avec vous-même, est-ce qu'il y a vraiment une limite face à laquelle vous vous dites, là, je ne peux pas. Je ne peux pas. En tant qu'écrivain, je ne peux pas aller au-delà. Il y a des vérités que je ne peux pas toucher.
Alors, ça...
Ça concerne quoi ? Sur quel terrain vous sentez qu'il y a un non possumus, quoi ?
C'est-à-dire, il y a... Dans le métier de la littérature, il y a plein de secrets et des énigmes que les écrivains ne parlent pas pour eux. Parce que, ou bien, ils ne peuvent pas expliquer, ou bien, dès qu'ils commencent à expliquer, ils se sentent qu'ils ne disent pas la vérité. Parce qu'ils sont tellement plongés dans le brouillard que la langue n'existe pas une langue appropriée.
Il y a des sujets comme ça qui vous torturent, dont vous dites,
oui,
j'ai pas l'alphabet.
Les choses, les
par
choses.
Exemple, par exemple.
Par exemple. Mais c'est pas maintenant ça, c'est vieil ça. Par exemple, une fois, en étudiant Eschyle, le premier dramaturge du monde, j'ai fait une découverte. Peut-être ils ont fait les autres aussi, mais juste maintenant j'ai pas vu. Dans une de ces tragédies, seulement dans cette, les sept contre la Thèbes, c'est une scène où évidemment j'ai compris comme professionnel qu'il voulait utiliser quelque chose qu'il ne pouvait pas. Son cerveau, il a senti qu'il y a quelque chose là-bas, une réserve, mais il ne pouvait pas aller plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Évidemment, il a fait le projet que les deux frères qui vont faire un duel à la fin de la tragédie, dans leur bouclier, ils ont quelques dessins mystérieux qu'ils ont, pendant le duel, ils vont jouer un rôle. Évidemment, ce n'était pas possible pour le théâtre. Et seulement c'est son pensée qui était restée entre les lignes. Mais il n'a pas utilisé ça, il était arrêté. C'est l'autre forme qu'il a trouvée plus tard. Première fois, il a fait entrer le fantôme dans la scène, qui à peu près remplaçait ce dessin qui était inanimé, c'était figé dans les boucliers, ce fantôme. Après, Shakespeare, il a largement utilisé le fantôme Sénèque avant Shakespeare, c'est la littérature de Rome, et après Shakespeare. Mais au commencement, vous savez, même le plus grand génie, il est arrêté, il ne pouvait pas aller plus loin.
Il faut respecter une part de mystère, quoi.
Alors, c'est-à-dire, c'est nous, les écrivains, nous, les professionnels, nous sommes sensibles à cela, mais nous aussi, nous avons les limites qu'on ne peut pas aller plus loin. Joyce, il a exprimé ça à travers ses épiphanies, c'est-à-dire les morceaux très denses, ivres presque, d'extase. C'était aussi un effort pour arriver dans les zones impossibles.
Et puisque vous parlez d'Eschyle, donc Eschyle, à la fin de sa vie, avait quitté la Grèce. Et vous, vous avez un texte superbe d'ailleurs sur Eschyle. Vous dites « La Grèce le portait et il portait la Grèce ». Donc vous, vous vivez aujourd'hui en France, pour l'essentiel. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce que, oui, même en France, l'Albanie vous porte et vous portez l'Albanie?
Oui, ça c'est vrai, absolument vrai. Malgré ça, que j'ai écrit ça quand j'étais dans l'Albanie dictatoriale. En 1985, j'ai publié ça. Mais maintenant que je suis libre, c'est la même chose.
Oui. Alors, il y a, si je fais à peu près les bons calculs, il doit y avoir à peu près 3 millions d'Albanais dans la diaspora dans le monde. Il y en a à peu près 3 millions en Albanie. Est-ce qu'il y a une osmose entre ces deux populations ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a le fossé
Oui, il y a une osmose, bien sûr. Vous savez, c'est passé quelque chose d'extravagant ou extraordinaire. Il y a, dans les Balkans, il y a des États albanais. C'était imprévu, ça. On a imaginé une Albanie pour élargie, etc., la fameuse Grande Albanie, etc. On n'a pas imaginé deux Albanies, deux États albanais. Alors, maintenant, c'est cette réalité. Et bien sûr, ces deux États ils jouent un rôle important dans les Balkans.
Alors, est-ce que c'est vrai, comme vous l'avez écrit, qu'Alexandre le Grand jurait en albanais?
Non, ce n'est pas vrai. Ça. Je ne crois pas. Ça, sont les...
Non, c'est votre
vous savez, dans les Balkans, non, je n'ai pas dit ça jamais. Dans les Balkans, c'est sport national, usurper les personnalités, un peuple à l'autre. Vous savez, la querelle entre les Grecs et les Macédoniens à cause de plusieurs choses et à cause de cela aussi. Pas pour... Les Albanais, ils ont rêvé les poètes et même la monnaie nationale de l'Albanie, peut-être ça vient de ça, et l'ancienne monnaie royale, elle avait le visage d'Alexandre.
Au fond, la vérité est autant dans l'imaginaire que dans la réalité.
Absolument, oui, c'était les poètes qui ont inventé ça, oui.
C'est en ça, donc nous sommes tous Albanais. Ainsi s'achève cet essentiel avec donc l'écrivain albanais Ismail Kadaret. Je rappelle qu'il a été installé en 1996 comme associé étranger à l'Académie des sciences morales et politiques et qu'il vient de publier chez Fayard un roman intitulé « Le dîner de trop », qui est un roman sur la folie, je ne peux pas dire autrement, la folie galopante des régimes totalitaires. Un roman qui fait vraiment froid dans le dos, mais dont la lecture constitue un rappel de vaccin très utile, outre évidemment les éminentes qualités littéraires de cet ouvrage. Ismail Kadaret, merci. Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci à vous.